100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, le bien-être animal est devenu une question politique. Trop de drames, trop de conditions d'élevage indignes. Résultat, de plus en plus de députés européens se positionnent sur la question. Les éleveurs aussi sont de plus en plus nombreux à se pencher sur cette condition animale. Léa-Lisa Westerhoff s'est rendue en Finlande à la ferme biologique Tukola, à une centaine de kilomètres au nord de Helsinki. La famille Vatten y élève des vaches laitières depuis des générations. Après être passée au bio il y a 30 ans, Eino et Mikael ont repris la ferme il y a 10 ans et ils ont fait du bien-être des vaches un de leurs objectifs.
Il est un peu moins de 8 heures, la lumière perd sa peine. Eino appelle ses vaches qui paissent à plus de 500 mètres de là dans une gigantesque prairie. C'est son chien qui les fait venir jusqu'à elle. Elles sont une douzaine de vaches à vivre dehors encore quelques jours avant de passer le rude hiver finlandais à l'étable. Eino, 36 ans, bottes en caoutchouc et combinaison bleue, ses cheveux blonds glissés sous un fin bonnet blanc, observe ses bêtes. Elle les connaît toutes par leur nom.
Je connais toutes les vaches, elles sont toutes différentes. J'en ai mieux certaines que d'autres. C'est comme avec des amis ou des collègues. Il y a certaines vaches avec lesquelles je m'entends super bien, d'autres moins, mais je les aime toutes. Là, je les observe, je regarde leur comportement. Si une vache est moins active, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
À quelques mètres de là, une trentaine de vaches laitières se font traire les unes après les autres dans une salle mécanisée. Voilà 10 ans qu'Eino a racheté la ferme de ses parents avec son mari Mikael. Fille de fermier depuis 10 générations, la jeune femme ne pensait pas un jour élever des vaches laitières à son tour. Après des études d'économie et d'agronomie à Helsinki, c'est finalement son mari qui la décide à se lancer.
Quand on a pensé à avoir des enfants, on a réalisé que ce n'était pas facile quand les parents travaillaient dans une entreprise. Ici, on peut s'occuper ensemble des vaches et s'occuper ensemble des enfants. On peut travailler tous les deux et s'occuper des enfants à tour de rôle. Donc c'est super et en plus, on est nos propres patrons.
10 ans et 4 enfants plus tard, le couple n'a pas de regrets, même si le travail est dur. Lever à 4h30 du matin tous les jours, traire les vaches jusqu'à 6h30, puis nourrir les autres. Nettoyer, vérifier que tout va bien avec chacune des 75 bêtes de la ferme.
Quelquefois c'est très dur, mais dans ce cas, avec mon mari, on essaie de regarder un peu plus loin. On se dit que c'est pour quelques jours ou quelques mois. Par exemple, quand on a construit de nouveaux bâtiments, c'était très coûteux et intense, car l'été ici est très court et on a énormément de choses à faire. Mais on savait que ce serait difficile un an et qu'après, ça irait mieux.
La ferme d'origine, un joli chalet en bois comme dans les livres d'enfants, date de 1720. C'est l'une des premières exploitations laitières de Finlande à être passée au bio en 1990. Quand Eino et son mari Mikael l'ont reprise en 2010, ils ont choisi d'investir dans le bien-être animal. La salle de traite a été élargie, des box pour que les vaches puissent mettre bas en toute intimité ont été construits, ainsi que de nouvelles étables pour l'hiver. Sous un appentis en bois, le sol couvert de paille fraîche, 4 veaux âgés de 3 mois têtent goulûment des biberons de lait tiède.
Les vaches, pour nous, sont nos collègues. Ça prend du temps et de l'argent de s'occuper de vaches, mais quand elles sont malades, c'est encore plus de travail. Donc autant faire en sorte qu'elles restent en bonne santé. Quand les vaches sont saines et heureuses, notre travail est plus facile. Donc pour l'ambiance ici, c'est important pour nous qu'elles soient bien traitées.
Son diplôme d'agroalimentaire en poche, Eino a aussi beaucoup étudié la nourriture qu'elle donne à ses vaches. Du trèfle, des pois et des haricots, en plus de l'herbe l'été. Et l'hiver, des concentrés alimentaires, tous issus de l'agriculture biologique. Un savoir-faire qui, selon Eino, leur permet d'avoir moins recours aux antibiotiques. Chaque année, la petite ferme entourée de 87 hectares de prairies produit environ 400 000 litres de lait et permet à la famille de gagner environ 3 000 euros par mois.
Je ne peux rien faire sur le prix du lait, donc j'essaie de ne pas trop y penser. Bien sûr, je prévois ce qu'on fera plus tard, mais j'essaie de ne pas trop penser à ça. Je préfère me concentrer sur ce que je peux faire, faire en sorte que des vaches soient en bonne santé, trouver des méthodes de conservation du lait.
Une vache a mis bas la veille, Eino lui donne une dose de vitamine C pour l'aider à récupérer. Ces derniers mois, 7 veaux sont nés pour Aino et Michael. C'est la preuve que leur élevage va bien et continue de grandir.
Paris et Berlin se sont entendus cette semaine pour mettre fin au broyage des poussins d'ici à la fin de l'année prochaine. Dans les couvoirs industriels, les poussins mâles sont systématiquement tués. Ils ne pondent pas d'œufs et leur croissance est trop lente pour la viande. Alors chaque année, en France, près de 50 millions de poussins sont broyés à la naissance, entre 32 et 40 millions en Allemagne. C'est une pratique qui n'est plus acceptable aujourd'hui. L'industrie développe des alternatives. La spectrométrie, par exemple, qui permettrait de connaître le sexe des embryons et de détruire les œufs avant leur éclosion. Un programme financé en Allemagne par le gouvernement. Les explications de Julien Méchaussi.
Pratiqué depuis une cinquantaine d'années, le broyage fait partie intégrante de l'économie de l'élevage allemand. Mais si la Cour fédérale administrative a récemment confirmé son autorisation, celle-ci a cependant tenu à rajouter cette petite phrase « jusqu'à l'introduction de procédés alternatifs pour la détermination du sexe ». En d'autres termes, jusqu'à ce que la technologie soit capable de reconnaître le sexe des poussins avant l'éclosion. Identifiée ainsi en amont de la naissance, l'étape du broyage des poussins deviendrait alors inutile. Un futur qui s'écrit déjà aujourd'hui. L'entreprise privée Select a mis au point un tel procédé en coopération avec l'université de Leipzig et en partie financé par le gouvernement. 9 jours après la fécondation, quand aucune souffrance ne peut encore être ressentie par l'embryon, un minuscule trou est effectué dans la coquille au moyen d'un laser. Une goutte de liquide est prélevée qui permet de déterminer s'il s'agit d'un mâle. Consciente des enjeux économiques, l'entreprise Select met aussi en avant les avantages pour les producteurs. Plus besoin d'effectuer un contrôle manuel des poussins et plus besoin de les tuer, des opérations très coûteuses. Plus éthique, les œufs produits sans tuer de poussins mâles sont déjà en vente dans une grande chaîne de supermarchés et sont appelés à terme à devenir la norme. Pour le consommateur, le surcoût ne dépasse pas les 2 centimes d'euros par œuf. Mais avec 220 œufs consommés en moyenne chaque année par Allemand, certaines associations de défense du bien-être animal dénoncent une technologie qui élude selon eux le fond du problème. Notre rapport de domination sur les animaux.
Poulet. Poulet numéro 728120. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits.
Les poules d'Edward sont particulièrement choyées. Aux Pays-Bas, Frédéric Lebel s'est rendu dans un élevage bio. Dans ce pays, deuxième exportateur mondial de produits agricoles, avec une surface agricole équivalente à 3 départements français seulement, l'élevage bio ne représente aujourd'hui qu'1% du bétail, mais c'est en train de changer.
La journée d'Edward commence toujours par une petite visite dans les 3 immenses poulaillers bardés de bois noir qui font face à la ferme. Et c'est un agriculteur qui cultive l'amabilité.
On frappe à la porte du poulailler avant d'entrer. Comme ça, les poulets savent qu'on va entrer. Ils ont temps de s'y préparer. Parce que si on rentrait comme ça, ils pourraient être effrayés. Là, ils sont au courant qu'on arrive.
So that's why we knock. Then the chickens will know we're coming.
Le son qu'on entend là, c'est bon signe. Les poulets nous disent qu'ils sont vraiment heureux, qu'ils ont assez d'espace pour bouger. Là, ils sentent qu'ils vont aller dehors. Alors, on ressent peut-être un peu d'inquiétude de leur part.
Dehors, les 11 000 poulets ont vite fait d'aller se promener dans les sous-bois.
L'environnement naturel des volailles, c'est la forêt. Et juste à côté du poulailler, on a beaucoup d'espèces d'arbres différents. Les poulets sont libres d'y farfouiller toute la journée. C'est pour ça qu'ils y vont tout le temps, parce qu'on a juste recréé leur habitat naturel.
Voilà pour l'image idyllique. En réalité, laisser les volailles dehors les expose à toutes sortes de prédateurs. 600 poulets disparaissent ainsi chaque année. Pour limiter les pertes, il a donc fallu inventer une nouvelle combinaison, des volailles, un peu de vignoble, mais aussi des noyers.
Nos activités sont très complémentaires, parce que les poulets sont des proies pour les vautours, les renards ou les aigles qui essaient de les manger dès qu'ils sont dehors. Mais grâce aux arbres de la forêt, grâce aux noyers et à la vigne, les poulets sont protégés de ces attaques. Et puis, cette combinaison marche bien parce que les poulets mangent aussi les petites feuilles à la base des plants de vigne, qu'il faudrait sinon enlever à la main. Ils font aussi le ménage au pied des noyers.
À 1h30 en voiture plus au nord, les 85 vaches d'Auke profitent aussi le plus possible du grand air. Charte bio oblige.
Beaucoup de fermes font pousser du maïs, nourrissent les vaches avec d'autres nutriments. Mais nous, on s'est dit qu'on allait revenir vers ce que la nature sait produire le mieux, l'herbe et le foin. Les vaches broutent de l'herbe, alors on les sort autant que possible. Elles sont dehors plus de 250 jours par an, et à l'étable, je dirais 110 jours. Dans les autres fermes, elles restent bien plus souvent à l'étable, et ça, c'est une grande différence. Elles se comportent vraiment comme des moutons. S'il y en a une qui décide d'aller dehors, alors elles vont toutes dehors. Et puis à nouveau, s'il y en a une qui va pour rentrer, alors elles suivent toutes.
Pour optimiser ses pâturages, la ferme de Vapserven s'est équipée de capteurs. Le bétail tourne régulièrement pour ne pas épuiser les sols. Les normes de l'agriculture biologique sont aussi drastiques pour les soins vétérinaires et le recours aux antibiotiques est très encadré.
On a le droit d'utiliser des antibiotiques, mais pas de manière préventive, seulement si les animaux sont très malades. Et alors là, il faut les soigner. Mais par exemple, là, on n'en a pas utilisé depuis 2 ans. Et je peux vous dire qu'on perd moins de bétail que dans les autres fermes, parce que nos vaches produisent moins de lait par an, 6000 litres par an contre 9000 ailleurs. C'est pour ça que nos vaches sont plus résistantes face à la maladie et qu'on peut se passer des antibiotiques. Parce qu'on a fait tout pour qu'elles restent saines.
À 16h, c'est la collecte de la traie du jour. Une partie est achetée par la fromagerie locale. Passer au bio, c'est une transition qui est viable économiquement. Alors que les prix du lait se sont effondrés sur le marché mondial, le bio, lui, tient la route.
Au cours des 5 dernières années, on n'a pas eu trop de changements. Les prix sont restés stables et ont fluctué de 5 centimes, pas plus. Ce qui nous donne une situation financière stable. Ici, pour qu'on s'en sorte, il ne faut pas que le prix au litre descende en dessous de 42 centimes. En dessous, on a vraiment des problèmes de trésorerie. Donc, quand ça marche, il faut mettre de l'argent de côté, au cas où ça deviendrait problématique.
Pas étonnant que l'Europe soit devenue le 2e producteur mondial de lait bio après les États-Unis. Les professionnels pointent du doigt aujourd'hui le risque d'une surproduction.
You can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Le combat pour le bien-être animal vire parfois à l'absurde. À Rouen, dans l'ouest de la France, une pétition a recueilli 35 000 signatures des opposants à un projet de ramassage scolaire en voiture à cheval qui dénonce la maltraitance animale. Un comble pour l'élu écologiste Jean-Michel Bérégovoy qui accompagne ce projet depuis des mois.
Le monde animal a été malmené pendant tellement de siècles, de millénaires en réalité, qu'il y a aujourd'hui des gens qui se battent et qui soient un peu extrêmes. Franchement, c'est pas grave. Moi, je pense qu'ils ont fait avancer la cause. Mais là, je crois qu'il y a eu un débordement. C'est pas des chevaux qui sont dans des villes du sud de l'Espagne qui vont rester des heures à la chaleur en plein été en attendant le client ou des chevaux qui travaillent dans des conditions épouvantables dans certaines régions encore du monde. Là, c'est des chevaux qui vont travailler 1 heure par jour dans une zone extrêmement apaisé de la ville, c'est la ceinture verte de Rouen, avec des gens qui sont d'abord des amoureux des chevaux, avec un projet qui va être construit avec des écoles et il n'y aura aucune obligation, c'est les familles et les enfants qui seront volontaires ou pas, sur un travail qui sera fait avec un matériel qui est adapté pour justement éviter ces charrettes trop lourdes, etc., que pouvaient tirer les chevaux, sur 1 heure maximum de travail par jour et puis après retour sur l'espace sur lequel ils font les copâturages depuis des années, ces chevaux. et puis avec du matériel électrique qui permette à aider la traction de cette charrette pour les chevaux. Alors après, qu'il y ait des gens qui défendent la cause animale, c'est très bien. Il y a peut-être des limites. J'ai compris que certains refusent même qu'on puisse développer des ruches, par exemple.
Ou des chiens d'aveugles.
Ou des chiens d'aveugles, etc. L'animal a toujours vécu avec l'homme. Ce qu'il faut, c'est vivre en symbiose, en faisant en sorte qu'on ait un respect équivalent à celui qu'on aurait pour un humain.
Et Jean-Michel Bérégovois, élu EELV à Rouen.
Wait to hear my next record. Maybe the critics won't like it.
La musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Aujourd'hui, c'est un groupe des Pays-Bas qu'on écoute.
S'il est rarissime de croiser un groupe qui existe depuis 46 ans, que dire alors d'un groupe qui existe depuis 46 ans sans jamais avoir baissé la garde en termes d'écriture, d'exigence et de curiosité? C'est tout ce dont peuvent s'enorgueillir les Nits, trio hollandais formé en 1974 et qui a publié voilà quelques semaines Not, un nouvel album beau et émouvant où le chanteur et parolier Henk Ofstede se livre à un travail d'introspection autour notamment du thème de la famille. Musicalement, les Nits prolongent le minutieux travail sur le son et les ambiances déjà entamés sur leur précédent disque. Le résultat est une collection de chansons flottantes et audacieuses qui invitent à la rêverie ou parfois à danser au ralenti, au son brumeux des claviers et percussions.
Dear mother, take my eyes in your hand and walk me to your promised land in the garden center, because you always went there. The Father and the Son and the Holy Ghost are gone to the Christmas sale. 80% of modern Maryland. Ooh, the raincap, your head is suddenly pink. We walk in the streets of my youth, streets of my youth. On the tree. Mother said I'm falling to pieces like my porcelain teacups on the white tiles of the kitchen floor. Ooh, you said I'm almost crying like a river. The flowers need some rain, and I never leave without a rain cap. Ooh, sit down next to the coffee machine, between the dwarfs of porcelain and the waterfall, on the rococo chairs, plastic rococo chairs. With handkerchief and peppermint, waiting for the day to end. Violas in your shopping bag, in Liverpool in the rain I hear a mother to a son. Let's look at the Lego again.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. C'est une émission réalisée avec le soutien de l'Union européenne. Vous retrouvez le podcast d'Accent d'Europe sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.